Bonjour, comme vous l'avez dit, je suis Daniel Schutz. Donc, j'ai une société à Montreuil qui s'appelle Mucho Media, qui existe maintenant depuis 5 ans. J'ai un parcours qui vient plutôt aussi d'une société montreuilloise dans le cinéma. Donc, je suis vraiment des médias classiques, plutôt caméraman, photographe à la base. Mais à la fin des années 90, je me suis vraiment intéressé beaucoup au fait que il y avait une frustration des outils existants. Je me suis intéressé aussi au fait de créer des récits non linéaires. C'est à une époque où tout le monde croyait à la télévision dite interactive, croyait à la fiction participative, générative. Il y avait tout un mouvance. Or qu'aujourd'hui, on constate que peu s'est fait parce que finalement, c'est quelque chose d'assez complexe. Et dans ce processus-là, dans une réflexion avec beaucoup d'allers-retours à Montréal, où il y avait une certaine effervescence à l'époque, est venue aussi la frustration de la souris, le fait que les choses avaient des interfaces plus naturelles, différentes. Et donc il y avait un mouvement qui s'appelait Kill the Mouse, à cette époque-là, et aussi moi c'était tout, il faut tout manger l'interface, donc c'était l'idée de sortir de là. Et j'avais fait des rencontres à l'époque avec une personne, pour montrer un peu son travail, Marberrier, qui a lui-même développé un outil afin de créer des mondes virtuels, des mondes interactifs, et on a allié nos talents avec d'autres gens et on a créé une première société. On a commencé à produire à la fois dans le monde de l'entreprise, pour de l'événementiel d'entreprise, pour des choses, pour des musées et dans le monde artistique. Donc on avait toujours le pied à la fois dans le business et à la fois dans la création. Une des premières choses qu'on a fait à l'époque, ce serait bien de montrer ça, parce que c'est un peu les origines, c'était en 2006, c'était le fait de jouer avec 2005. Donc c'était l'idée de jouer avec de la projection, avec de la captation par caméra. C'est rien de nouveau, ça date d'il y a 20-30 ans, ces notions-là. Mais on avait commencé à cette époque-là déjà de faire de la projection interactive dans des mondes artistiques. Et l'idée, c'était de travailler sur ce qu'on appelle les réseaux et de travailler autour de ça. Donc ça, c'était une des premières œuvres qui a été faite en France dans le sens artistique de la chose, au niveau de la projection interactive au sol, où on est suivi par des caméras et on peut interagir avec l'image. Donc ça a mené à d'autres recherches. Voilà. Bon, l'idée, c'était vraiment d'allier aussi la projection verticale avec le sol. Et ça a donné, avec ce laboratoire qui, en fin de compte, fait à la fois dans le contenu éducatif et des contenus pour des musées, ça a donné une collaboration assez riche qui continue aujourd'hui. On participe régulièrement à leur lab. Ils créent des labs où ils essayent de mélanger à la fois des développeurs informatiques, ce qui est même important, et des artistes, des créateurs, des graphistes, et de les pousser à faire des contenus, à trouver des nouveaux concepts, et après de les promouvoir auprès du milieu de la culture et des musées. Voilà. Donc ça, c'était un peu le début. À cette même époque, on a fait notre première application multitouch, avec les mêmes, qui était un truc de classification des espèces. Elle tourne toujours. D'ailleurs, dans des contextes du musée Confluence, donc muséum d'histoire naturelle à Lyon. Et l'idée, c'était de créer une arborescence et de regarder comment se classent les différentes espèces. Donc ça, c'était une des premières applications dites fonctionnelles, publiques, multipoints, qui a été fait dans un usage public en France. Et ça nous a permis vraiment d'avancer dans ce sens-là, d'avoir une réflexion sur c'est quoi ce médium. Ce qu'on voit là, à l'époque, c'était super excitant de pouvoir agrandir des photos et de trier, mais on se rend compte aujourd'hui que ça ne sert pas à grand-chose et que c'est devenu un effroyable gadget et on cherche d'autres moyens de faire, mais la science, elle avance très très doucement. Hein. Par la suite, on a travaillé pour un musée. De la technologie qu'on a développée vers 2007, on a eu une commande de faire un jeu dans un musée parc sur le développement durable qui amène le public, essentiellement du scolaire, hein, c'est 80% du scolaire, à réfléchir aux possibles scénarios du futur. Alors au sol, on symbolise les ressources de la planète. Donc vous avez les grosses boules avec le feu, c'est tout ce qui est les énergies fossiles, vous avez les minerais, vous avez l'eau, vous avez les renouvelables et la biomasse. Et l'idée, c'est de bien les doser en les amenant dans le tunnel qui, lui, avance dans le temps. Et là, vous avez une jauge qui vous dit que vous êtes actif, passif, individuel, collectif. Et plus vous jouez bien, plus vous allez aller vers du collectif actif. Et plus vous faites n'importe quoi au niveau des boules, vous allez vers du passif individuel. Donc évidemment, il n'y a pas de réel gameplay, mais c'est que les gens s'y prêtent à ça. Donc l'important là, c'est d'essayer de créer une collaboration. Et c'est ça l'essentiel. Ça, c'est l'autre application qu'on a fait là-bas, qui est un atlas des ressources de la planète sur 50 ans. Et ça, c'est un usage du multitouch qui est assez intéressant. Ça tourne toujours, hein. Vous choisissez une ressource, vous allez regarder sur le map monde, vous pouvez choisir la façon dont ça s'affiche, et vous allez regarder une donnée et pouvoir les comparer et bouger dans le temps. Donc ça, c'était une application assez poussée, avec un assez gros budget d'ailleurs, qui nous a vraiment poussé dans les retranchements des possibles dans ce domaine-là. Et elle est tellement complexe qu'aujourd'hui, on a un mal fou à la faire tourner. Qu'elle tourne là-bas, mais là, je ne l'ai pas aujourd'hui en démo, parce que si je n'ai pas le développeur, donc c'est encore des technologies qui sont neuves, qui demandent beaucoup de sans-mesure, il n'y a pas encore de standardisation, même si aujourd'hui avec les tablettes, forcément, le iPhone, tout ça, ça c'est standardisé. Et la donne est vraiment en train de changer. Après on a travaillé, j'aime bien montrer ça, sur un projet de cartographie, qui est un concept qui est né un peu de toute cette réflexion, qu'est-ce qui est intéressant en fin de compte du fait de toucher l'écran. Et moi j'ai toujours dit que pour moi ça c'est des bacs à sable. On joue, il faut jouer. Donc là, le concept est assez simple, c'est que vous pouvez représenter une ville, alors que là c'est Clichy-la-Garenne, à travers ses couches historiques ou ses couches de pertinence, de cartographie. Et donc vous promenez des ronds et chacun découvre une époque donnée, ce qui vous permet d'aller creuser, jouer, comparer. C'est quelque chose qui est autrement très difficile à faire. Donc ça, c'est évidemment pas fait pour être à cette échelle-là, c'est une table, après vous avez des infos. Et vous promenez les infos. Après, on a l'utilisation artistique. Là, c'est assez intéressant. C'est un collectif, les Acrylo Numériques, qui mélange projection et création graphique sur un gros mur en même temps. Donc, ils vont faire du graphe, ils vont avoir des pochoirs et tout sur un grand mur. Et en même temps, on projette. Et afin de pouvoir gérer et placer les projections sur l'écran, vous voyez, ils les placent, bah, une table multitouch a tout son sens. C'est à la fois scénographique et c'est pratique par rapport aux outils existants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et ça a mené aussi au fait que, je ne sais pas si vous connaissez cette émission-là, bah, ça a été fabriqué ici à Montreuil, cette table. Voilà, et l'avantage de ce genre de choses, c'est que c'est très facile à manier, à reprojeter, à arriver vers du très grand. Et là, en fin de compte, ça, c'est le grand écran, qui est la même chose que cette table qu'on a fabriquée avec Jim ici, il y a à 200 mètres. Hein. Toutes les technologies qu'on développe sont conçu, fabriqué, intégré dans nos ateliers à Montreuil. C'est de l'artisanat pur, on est des bricoleurs. Hein. C'est pas des choses qu'on peut encore aujourd'hui acheter dans le marché. Ça vient, mais pas encore.
Ça fait penser un peu à certains films de télé, les films policiers avec.
Avec ce genre de traitement, vous dire de science-fiction plutôt.
Non, oui. C'est pas la science-fiction, c'est...
Les experts.
Voilà, les experts.
Ok, ou maintenant on voit de plus en plus ce genre de, voilà,
ils ont un tableau
esthétique. Oui, ou dans
c'est chouette.
Voilà, là, c'est des brosses de chez Laurent Merlin. Hein. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de pile, il n'y a rien de tout ça. Quoi.
Oui, parce qu'il paraît qu'il y a même des logiciels, ils ont fait de la science pour les futurs médecins.
Oui.
Ils voient tout.
La médecine est de toute façon dans la visualisation de ce genre de choses, un domaine qui est toujours été pionnier.
En 3D.
Dans la recherche, dans la visualisation 3D, parce qu'il y a un vrai besoin. On a l'industrie d'un côté, mais dans la médecine, la manipulation des images, donc ce genre de choses tactiles est très présent. En tout cas, la demande est très présente. Donc là, c'est une autre forme de création. Alors, que je vais me montrer, même si là aussi c'est un peu long, parce que c'est devenu un enjeu pour moi de vraiment amener les créateurs à s'accaparer de l'outil, s'emparer de l'outil et d'aller au-delà de simples effets de waouh et de vraiment créer des œuvres. Et on a eu une pause donc, de quelques mois là pour cause de pas des ateliers adéquats, etc. Et maintenant on va réintégrer un labo, atelier ici à Montreuil, où des artistes peuvent régulièrement nous solliciter. Il y aura des jours de labo, il y aura des jours de pure création, ils peuvent venir simplement passer du temps sur les dispositifs et faire des créations. Que ce soit sur ce logiciel-là ou que ce soit sur d'autres plateformes.
Oui, mais est-ce qu'ils peuvent le sortir en imprimante?
Oui, mais c'est un peu dommage de le sortir en imprimante puisque c'est animé. Mais on peut le sortir en très grand format en imprimante. Ou, ce qu'on fait plus usuellement, le garder en tant que film vidéo. Alors, on a en cours dans un musée, dans un une exposition à La Réunion qui s'appelle l'Expo de l'histoire des musiques noires. Vous avez tout un parcours où on vous raconte tous les grands figures de la musique noire, des blues jusqu'à aujourd'hui, des musiques africaines, des courants latinos. Vous avez toutes sortes de projections de différentes salles, de différents formats de voir. Et vous avez un smartphone qui vous donne tout le son. Et à la fin, il y a un mur comme ça, avec du graphe. Et à côté, il y a un petit truc de mix. Donc les gens se lâchent. Et ils peuvent graffer, et puis après, ils peuvent à un moment donné, il y a juste marqué « voulez-vous garder ça ?» Ils cliquent sur leur smartphone, ils ont l'image. Et après, quand ils rentrent chez eux, ils ont leur visite personnelle, donc ceux qui ont liké, « j'aime Aretha Franklin, j'aime Fela », et ils ont leur dessin. Donc ça, c'est un peu là où va la technologie. Ils peuvent la partager sur Facebook, et ainsi de suite.
Il y a eu beaucoup de progrès de
fait
pour la mémoire, pour le stockage.
Bah oui et non, c'est assez drôle, c'est que dans ce domaine, en parallèle, pendant que j'ai monté l'entreprise, je travaillais en tant que traducteur vers l'anglais pour tout ce qui était les programmes spécifiques à la numérisation. Et on se rend compte qu'on a dépensé, mais littéralement des milliards, avec des sous-traitants qui se sont goinfrés au bout des années pour numériser les sociétés, pour scanner, stocker, donner des noms, des nomenclatures, pour créer des choses, les mettre sur des serveurs, et personne ne les regarde. En fin de compte, ça n'a pas amené grand-chose aujourd'hui. Et ce qui change, c'est deux acteurs qui sont venus un peu sur la place depuis 3-4 ans, qui vraiment changent la donne. C'est à la fois ce qu'a fait Microsoft, Cordis, de s'emparer de ces fonds, ou d'essayer de les valoriser, et surtout maintenant Google. Là, je pense que la donne change. Mais au jour d'aujourd'hui, pour le Kidam, en fin de compte, le numérique, c'est la meilleure façon de perdre sa mémoire. Il vaut mieux avoir une caisse, une boîte à chaussures avec des photos de grand-père, etc., que de savoir, vous avez une vieille disquette, vous avez des photos de vos enfants qui sont nés au début des années 90. C'est la meilleure façon de perdre. En fin de compte, la numérique ne crée surtout pas la mémoire, elle crée la perte de mémoire. Parce qu'elle se renouvelle constamment. On perd tout le temps ses archives, à chaque fois qu'on change de PC. Donc c'est une façon de continuellement créer de la perte et de et en même temps de continuellement faire du nouveau. On n'a jamais fait autant de photos. Et on n'a jamais sauvegardé aussi peu les photos. Et en fin de compte, le web, c'est un cimetière en continu. Tout meurt. Il y a une société avec laquelle j'ai partagé mes bureaux, dont c'est qui s'appelle European Web Archive, dont c'est le travail de sauvegarder le web. Tout le monde veut sauvegarder le patrimoine, mais ils oublient que le web lui-même se meurt tout le temps. Donc ils ont des batteries de serveurs. Hein, et ils sauvegardent. Mais c'est automatique. Hein. Ils ont plein de développeurs qui créent ce qu'on appelle des harvesters. C'est des engins virtuels qui vont sur le web et qui sentent que quelque chose va mourir, donc ils le mangent, ils le reformatent et ils le mettent dans le grenier. C'est assez rigolo. Donc ici, vous avez...
Ils ont un axe spécifique, ce qui sauvegarde, en fait, c'est lié à quoi, de la photo,
tout ce qui est patrimoine, culture, tout d'abord, tout cela. Et après, non. Après, c'est selon, en fin de compte, les partenaires. Ça peut être de l'industrie. Bon, tout ce qui est l'aéronautique, on va sauvegarder. Mais c'est sectoriel et c'est selon la demande. Donc ils ont une espèce de commande comme ça. Et puis après, c'est public de sauvegarder tout ce qui se met. Mais c'est énorme.
Avant il fallait des énormes machines pour les mémoires. Que là, ils sont arrivés quand même à miniaturiser. Ils n'arriveront pas.
Non. On ne miniaturise pas du tout. C'est-à-dire que, oui, on croit que maintenant, avant, il fallait des gros armoires de partout maintenant. Et en fin de compte, la réalité, c'est que oui, on a cette fameuse loi de Moore qui dit que ça devient deux fois plus puissant, je peux stocker deux fois plus. Le problème, c'est que je pèse deux fois plus. Je crée deux fois plus. Donc, ces histoires avec des grands usines serveurs, c'est absolument une réalité et ça ne s'en va pas du tout. Google, c'est une véritable armée. Tout dans le monde, avec des bunkers avec des ordinateurs. Et ça ne... Non, parce qu'on double, on fait plus que doubler le flux, le contenu et tout ça, tout le temps. Donc l'informatique ne se miniaturise pas du tout.
Et, vous savez plus combien de centrales nucléaires il faut juste pour Google?
Juste pour Google.
C'est juste, le oui. Juste pour faire tourner Google.
Juste pour faire tourner tous ces serveurs.
Sur une année, c'est quelque chose comme 6 centrales.
C'est ce qu'il dit. Il faudrait, je ne sais pas combien, 5 ou 6 centrales.
Je crois que c'est 5 ou 6 centrales nucléaires à l'année pour Google, juste pour le moteur de recherche.
Oui,
mais alors s'il y a les pannes électriques, qu'est-ce qui va se faire?
Ben justement, c'est pour ça que bien plus que les gouvernements, l'Internet s'est totalement sécurisé elle-même. Cela dit, elle s'est totalement sécurisée elle-même. Il est arrivé quelque chose d'assez drôle en décembre. J'avais fait un truc pour le musée, hein. Je devais acheter un tas d'ordinateurs pour un musée. Et il est arrivé inondation de Thaïlande. Inondation de Thaïlande. Ben, on ne savait pas, mais 80% des disques durs sont fabriqués en Thaïlande. Hein, des sous-traitants chinois, des sous-traitants, des trucs. Et il y a eu, non seulement les prix ont triplé en l'espace de quelques semaines, il y a eu une pénurie. Parce que tous les gros Dell, tous les gros fournisseurs avaient une réserve. Ils doivent être livrés. Donc tous les petits, même à Grosbille, tu avais des gens, tu avais des rayons vides. Tu n'avais plus rien en ligne. Parce que tout a été centralisé dans un endroit. Donc finalement, le numérique n'est pas forcément sécurisant à ce niveau-là. Et personne ne s'en est rendu compte. Alors, on dit que tout est sécurisé maintenant. Pour revenir maintenant à notre truc qui est vraiment intéressant là-dedans, et ce qui, pour moi, est le plus intéressant de ces technologies-là, c'est la nouveauté d'être à plusieurs sur un même écran. Quand les gamins, ils jouent aux jeux vidéo, ils sont habitués, mais avec leur code du jeu vidéo. Là, on a d'autres codes. Les adultes, on n'est pas du tout habitués à partager notre bureau. Quand vous êtes en réseau, vous parlez à quelqu'un, vous êtes maître de chez vous, eux, ils sont maîtres de chez eux. Là, vous avez ce besoin de partager un même espace de création ou un même espace de travail. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille particulièrement. Donc il va y avoir toute une recherche autour de ça qu'on va amener à la fois ici, puis dans notre labo et j'espère ailleurs. Et là, ce genre de dispositif, on peut avoir deux qui sont branchés n'importe où dans le monde et on travaille sur la même toile. On est dans le même espace de création partagé. Donc on avait fait un petit événement expérimental en Turquie avec un festival d'art numérique et du multimédia en Turquie, avec un festival d'art de la rue en Allemagne. Et les artistes travaillaient dans le même espace. C'était un peu un raté artistiquement, parce qu'ils n'avaient pas encore acquis les réflexes, mais c'était un début. En tout cas, techniquement, ça nous l'a validé.
Il faut combien de développeurs à chaque fois?
Alors, en fin de compte, là, il n'y en a qu'un seul, c'est un collègue au Canada, qui lui développe ça. Et en fin de compte, là, il n'y a pas de développement. C'est-à-dire que ça avait déjà été développé pour le mur, pour le multi-touch, et là c'est juste une adaptation à la chip de la chose. Et on va utiliser deux projecteurs, donc il y en a un qui va avoir de la vidéo aussi. Et après c'est l'idée de trouver de l'expression intéressante. Donc là c'est vraiment, ça s'appelle l'uplight et toute l'idée c'est que ça soit cheap. Alors après on va en terminer là, puis ce que je voudrais faire c'est de vous montrer des choses sur la table.
Et est-ce que sur la personne, le fait de pouvoir le montrer comme ça à d'autres, ça décuple ou au contraire, ça a un effet libérateur et ça de la plaise?
Je pense que... Ce qui est vachement intéressant là-dedans, c'est de voir le processus le processus créatif, de le suivre. Donc forcément, il y a une implication. Donc l'émotion que ça peut générer peut être plus forte. Maintenant, je dirais qu'il n'y a pas de miracle. C'est pas parce que c'est numérique ou c'est cela que l'expression change. Je pense qu'il y a eu un rêve. Je pense que ce rêve, on l'a dépassé. Et qu'aujourd'hui, ça vient avec l'ensemble des outils de création. Je veux dire, c'est pas parce qu'une musique est numérique qu'elle est plus forte que si elle est faite des plastiques. Il faut le voir un peu comme ça, quoi. Alors, pour terminer, ça c'était plus récemment, aussi le genre de choses qu'on va voir aujourd'hui dans le multitouch, c'est vraiment le travail sur la ville. Donc là, on avait fait un prototype sur 51 en Yvelines, où vous avez des lieux de culture, et vous avez toute la programmation culturelle sur une année. Donc c'est un usage qu'on va voir de plus en plus dans le multitouch, c'est l'information citoyenne. Ce sont des domaines où dans l'interactif, on va essayer de créer sens avec des éléments symboliques. Voilà.